podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 22 février. Salut Martin.
Salut. As-tu du Guns N' Roses aujourd'hui?
Welcome to the jungle! J'en ai fait tomber une coupe dans le bas de leur chaise hier, je pense, avec ça.
J'ai usé cette cassette-là. Tu sais, je l'ai écoutée jusqu'à temps qu'elle ne marche plus. OK? Pour moi, là, Appetite for Destruction, c'est un album mythique. Ça correspond à la fin de mon adolescence, le début de mon adulthood, tu sais, là, pis tout ça, là. Puis tu l'as scrappé hier.
Non, ben écoute, ça n'empêche pas que cet album-là, il est génial, là. C'est le meilleur album, un des meilleurs albums de hard rock qui a jamais été fait, là, tant que moi. Puis surtout à l'époque des groupes de cheveux, c'était le meilleur band de cheveux. Puis, écoute, c'est grâce à ça qu'on a connu Slash, qui est un des meilleurs solistes ever. Puis, ça enlève rien à ce qu'ils ont fait, là. Puis, moi, j'ai trippé fort Guns N' Roses.
Moi aussi.
Use Your Illusion 1, puis tout. C'est écœurant, cet album double-là. En tout cas, ben, qui est sorti comme pas en même temps, mais qui a un lien entre les deux. Très, très bon album. Après ça, ça s'est comme gâté un peu, là. Spaghetti Incident, puis Chinese Democracy, qui a pris 120 ans à composer puis enregistrer, puis finalement, qui était pas bien bon. C'était pas mauvais, mais c'était comme du Guns N' Roses générique. C'était comme toutes des B-sides. Ça sonnait comme toutes des B-sides, mais Appetite for Destruction, écoute, My Michelle, puis...
moi, je pense que... Moi, je vais te dire pire que ça, là. Je pense qu'Appetite, selon moi, devrait figurer dans le top 5 premier album de l'histoire. Premier album d'un band, là?
De rock, là, ouais.
Non, ben oui, là, je comparais pas ça que, écoute, là,
Barry
Manilow, là. Mais tu sais, si tu prends le début album d'un band, là, il faut qu'Appetite soit dans le top 5. Là.
Ouais, c'est certainement un des meilleurs premiers albums d'une formation. Là. Pour une fois, on est d'accord sur la musique. C'est vraiment un chef-d'œuvre, cet album-là. So Easy, dont les paroles hein, sont pas très woke. Hein, je sais pas si.
Non, il n'y a rien. C'est probablement l'album le moins woke ever. Là. C'est ça,
a
votre sens.
It's So Easy. Michel, là, c'était les paroles. Là, Turn Around, Bitch, I Got a Use for You. Là, c'est pas romantique.
Non, ça pourrait plus. Je sais même pas, tu sais, c'est comme. Ça a pas vraiment tourné ces radios standards, mais tu sais, j'imagine qu'aujourd'hui, ça serait pas possible. Faudrait qu'ils
seraient cancellés assez rapidement. Mais c'est bizarre, hein, justement, ça nous a amené à notre premier sujet. On va faire un petit suivi. C'est bizarre la société où on vit maintenant, parce que là, avec la culture woke, puis tu sais, c'est. Les gens sont très frileux, puis à la moindre incartade, on se fait crucifier sur Internet. On pourrait couper hors contexte la phrase de la chanson que j'ai dit tantôt et me canceller. Tu sais, c'est fou comment faut faire attention à ce qu'on dit. Et on se fait rapidement crucifier sur la place publique. Il n'y a aucune espèce d'indulgence. Des fois, on n'essaie même pas de savoir le contexte, puis on va décider que cette personne-là a dit telle chose en 1984. Fait qu'on ne peut plus jamais faire jouer sa musique, on peut plus jamais écouter ses films, ou ben on peut plus consommer ses produits, lire ses affaires. Tu sais, c'est rough. Surtout quand on condamne les gens pour des standards... Des gens avec les standards d'aujourd'hui pour des choses qu'ils ont dites il y a 20-30 ans. Mais apparemment, dans les institutions, cette culture-là ne s'est pas transférée. Hein? On a vu des profs qui pouvaient mettre leurs étudiantes mineures enceintes et quand même enseigner toute leur vie sans être inquiétés. On a eu un violeur multirécidiviste qui s'en est bien tiré aussi. Tu sais, On a eu un coach de hockey qui traitait les jeunes de crise de tapette ou de fif, je sais pas, tu sais, mot ordurier là, puis qui leur disait, là, si faut que tu te blesses fort pour sortir, si tu saignes pas ou c'est pas cassé, tu restes à la glace, tu sais, puis super toxique. Puis lui aussi, hein, il s'en sort bien quand même, hein.
Ben, écoute, tu sais, là, ça a l'air bizarre, ce que je vais dire, là. Prenez-le pas pour autre chose que ce que je vais dire.
Je me prépare à te canceller.
Mais c'est, tu sais, traiter du monde de fif, c'est devenu fif. Non, mais gars, dans le florilège d'expression canceller puis toute la patente, là. Tu sais, je veux dire, ça, tu sais, quand t'as parlé de cette histoire-là, là, tu sais, parce qu'il y a eu deux follow-up. Dans le fond, là, évidemment, il y a eu les propos. Il y a eu la rencontre que l'organisation a faite avec ce coach-là. Il y a eu les joueurs qui ont dit qu'ils voulaient revoir leur coach. Qu'est-ce que tu fais rendu là, tu sais?
Ben là, tu...
Vive nos chaînes, tu sais. Non, mais tu sais, je sais plus. Pas que je le sais plus. Moi, je suis totalement en désaccord avec des propos comme ça. Je trouve que c'est de la culture d'Australopithèque sportive.
Ouais.
Je suis totalement contre ça. Mais là, tu te ramasses dans une situation où est-ce que ils l'ont rencontré. T'as-tu vu dans l'article? Il va avoir un cours de 3 à 5 heures pour arrêter d'être un Australopithèque.
De politesse.
Ça prend vraiment 5 heures, tu sais, à prendre ça à quelqu'un.
Hey, pour vrai, c'est de la marde, ces cours-là. Là. Tu sais, je les ai pas vus. Là. Puis oui, je juge sans connaître. Mais c'est de la marde! C'est de la marde!
Mais non, c'est ça.
Je
sais
pas qu'on va devenir une meilleure personne. Parce qu'en 5 heures, on va lui dire, bon... Ça, c'est la liste des mots pas gentils. Et puis, quand tu parles à un jeune enfant, il faut pas que tu l'insultes sur sa sexualité ou que tu la remettes en question pour avoir des meilleures performances de lui. Ça, c'est moralement discutable, mon cher ami, coach. Ah, OK. Bon, ben là, je m'en vais avec mon diplôme de bonne personne enseigner à des enfants.
Ah ouais, t'sais, gardien averti. T'sais, tu peux charger 20$ de l'heure, t'as fait ton cours.
Moi, je pense...
Non, mais regarde, moi j'ai une théorie là-dessus, OK, Frank? J'ai une théorie là-dessus.
Ouais, OK. Vas-y.
J'ai joué au hockey, puis j'ai aussi suivi du monde qui joue au hockey, dans le sens que des bons amis, des grands amis qui ont des enfants, dont les enfants sont allés loin au hockey. Fait que tu sais, j'suis allé dans des tournois, j'ai gravité autour de ça. Je sais qu'il y en a 7 millions qui nous écoutent présentement qui connaissent ça, le hockey. Là, mon argument, là, c'est pas que je connais ça plus que vous autres. Pas en tout. OK? Mais je pense que je suis un pas pire observateur des gens. Et là, moi, ce que je pense, là, je vais te le dire, ce que je pense. Je pense que les parents pis tout ça sont pas d'accord. Sont pas d'accord avec les propos. Sont pas d'accord. Puis là, ils ont fait amende honorable. Tu sais, là, il a été rencontré, il a été suspendu, il va suivre des cours de poète australopithèque puis tout. Moi, tu sais ce que je pense?
Des cours de bonne
personne. Moi, je pense qu'ils ont une hostie de bon club puis qu'ils pourraient aller loin cette année.
Puis ils veulent pas perdre le coach qui est capable de tirer le meilleur jus de ces citrons-là.
Voilà. Moi, c'est ça que je... Ça veut pas dire... Je n'accuse aucun parent de rien du tout. Je dis rien d'autre que ce que je dis là. Moi, je pense que là, c'était cette année. Les planètes sont alignées.
Ça se peut, c'est une théorie qui se tient. Je sais pas si t'es allé voir leur ranking, là, mais...
Pantoute. J'ai assez gravité autour du monde des... J'ai pas gravité autour du monde du hockey. J'ai gravité autour des parents de kids qui jouent au hockey dans l'élite.
Moi, je pense que ne serait-ce que pour l'exemple, juste pour la... Tu sais, c'est important le message que lance une organisation.
Mais quand non, c'est gagné, Frank. C'est pas important, le message. Faut gagner. On n'est pas des losers.
C'est... tu sais, le message de la Ligue, c'est que c'est pas grave si les jeunes puis les parents y aiment le travail que tu fais. Autrement dit, si tu fais gagner l'équipe ou si quand t'es pas un trou de cul, t'es un bon gars. Tu sais, c'est comme il m'a battu, mais tu sais, d'habitude, il est pas comme ça. Tu sais, c'est un bon gars, puis on jase, puis mais cette fois-là, il a décidé de me sacrer une volée. Mais tu sais, d'habitude, il est correct là. D'habitude, il est super. Tu sais,
moi, ce que je pense qui se passe là, c'est que en temps normal, là, c'est super gratuit ce que je vais dire là, mais c'est un furling que j'ai là, vas-y. OK? Moi, ce que ça me donne l'impression, c'est qu'en temps normal, là, probablement, tu sais, là, mettons, ça aurait été une équipe, puis je dis ça, je vraiment la 17e lettre de l'alphabet, parce que j'ai pas été voir les rankings, j'ai pas été voir le league. Moi, je fais juste dire que ça me donne cette impression-là. Mm-hmm. Prove me wrong. Prove me wrong. Puis je vais dire, oh, excusez, j'ai parlé à travers mon chapeau, puis ça n'avait pas rapport. Parce que moi, je ne peux pas concevoir, au bout de le bottom line de cette histoire-là, Frank, je ne peux pas concevoir qu'un coach en position de, pas d'autorité, mais tu sais, de leadership. Ouais, mais tu sais, il n'est pas là pour les élever, là, c'est mon point. Là, ouais,
il exerce une autorité, par exemple.
En position de leadership sur ces jeunes-là, je ne peux pas concevoir qu'un coach tienne des propos comme ça, dont la motivation serait de motiver les jeunes, de les pousser à aller plus loin, de se dépasser en tenant des propos comme ça, puis que là, au final, ben, on lui a donné un bel petit slap on the wrist, puis on lui a donné un duotang avec des affaires à faire pis à pas faire. Tu sais, c'est ça, ça me donne... Pourquoi? Parce que cette année, c'est cette année.
Moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça dérange certains joueurs, puis il y a d'autres joueurs que ça leur dérange pas. Probablement que ceux qui performent bien se font pas trop traiter d'hostie de fif.
Mais bon, ceux là, qui ont plus... on vient de démolir ma théorie. Ils sont 12e sur 15 dans la ligue.
Bon, ben, je vais y aller avec la mienne. Mais c'est implausible. Mais bon, c'est ça. C'est que ceux qui performent bien, ils doivent pas trop se faire traiter de fif. Mais ceux qui ont plus de difficultés, ceux qui donnent pas leur 100% selon ce coach-là, eux autres doivent se faire traiter de fif, puis de tapette, puis se pousser, puis bousculer moralement. fait que, tu sais, c'est comme... J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont plaints, mais ceux qui ont pas subi ou ceux qui n'éprouvent pas de d'inconfort à se faire traiter de cette sorte-là, se plaignent pas. Fait qu'ils se sont dit, bah, il y en a juste une couple qui se plaignent. Tu sais, c'est comme le prof, hein? Il en a juste mis deux en scène de ses élèves. Les autres, ils le trouvent bien correct. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote? Est-ce que c'est démocratique? Est-ce que... Colin, je veux dire, regarde... La ligue, l'équipe devrait envoyer le message clair que... Dans le hockey c'est d'aujourd'hui, en 2023, on traite pas des enfants de fif pis de tapette. Puis ceux qui le font perdent leur job, ne peuvent pas coacher dans notre équipe. C'est ça le message moral qui aurait été correct de lancer. Même le coach l'avait compris parce que lui, il a démissionné. C'est eux autres qui l'ont ramené.
Ah ouais.
Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, gars, ouais, ben là, il y a juste les victimes qui se plaignent. Les autres, ils se plaignent pas. C'est comme le prof. À part les deux là qu'il a mis enceinte, les autres filles, on n'a pas eu de mauvais commentaires. Ça doit pas être si grave que ça. Laissons-le enseigner. Tu sais, regarde, je suis pas ultra woke, mais ce serait peut-être le temps pour cette équipe-là, puis là, le monde du hockey en général, de se réveiller puis d'être woke un petit peu, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je suis pas woke à l'extrême, là, je sais qu'il y en a, tu sais, qui te condamnent pour n'importe quel écart de langage, tu deviens une mauvaise personne. Mais tu sais, c'est sûrement un juste milieu, Martin, mais on dirait que ça intéresse pas personne, le juste milieu. C'est pas assez hot sur les réseaux sociaux, ça devient pas viral, être tempéré, raisonnable.
Ouais, ben Frank, je suis obligé de te couper, là, parce que c'est pour la première fois on va utiliser un vrai breaking news, fait que ça sera pas parce qu'on est sain, là. Parce que ça vient de sortir, en fait, moi j'en avais un petit peu glissé mot, comment dirais-je, à travers un autre show, puis d'une autre façon que dans l'Express, parce que ça n'avait pas touché encore à l'actualité, mais là, ça vient de se passer parce que c'est sorti il y a quelques minutes sur Journal de Montréal. Tu te rappelleras qu'il y avait été question, bouge pas de moins de deux secondes, ça revole pas mal là, ce matin. Bon, c'est sorti il y a quelques minutes, c'est sous la plume de Francis Pilon.
Ah, ce cher Francis.
Oui, c'est ça. Bon, longue histoire courte, il y a quelqu'un qui fait partie de la complosphère qui s'appelle Yann Beauchamp, qui serait présumément disparu. On va le dire comme ça. On ne connaît plus ses allées et venues. Et là, ben la semaine dernière, ça avait commencé à tourner sur sur les médias sociaux. Il est décédé. Il y en a qui parlaient d'une crise cardiaque. Il y en a d'autres qui disaient qu'il s'est enlevé à vie. Tu sais, tout ça. Ça, c'est ce qui se promenait sur Internet et sur différentes pages, puis tout ça. Et là, ben, c'est dans le Journal de Montréal, là, il y a quelques minutes, c'est la fille de Yann Beauchamp qui s'est confiée à Francis Pilon et qui envoie un peu un message à l'effet qu'elle exhorte les internautes à cesser de diffuser de fausses informations et de récolter de l'argent en son nom, alors qu'elle tente de faire confirmer le décès de son père qui s'était réfugié au Brésil. J'ai rien d'autre à dire que ça, parce que je veux pas tomber dans le spinorama. Moi, la semaine dernière, j'ai tout simplement dit, c'est pas de nos affaires. Elle-même, elle le sait pas. Elle avait été publiquement...
Elle avait fait un live.
Elle-même, elle le sait pas. Next. Je veux dire, on s'est plate. Sincère, bon courage à la famille, parce que là, tu sais, au-delà des idéologies de la personne de qui on parle en question, il y a une famille,
ouais.
Il y a des enfants, il y a des parents, il y a du monde autour, fait que par respect pour eux autres, on n'a pas parlé.
C'est là, pas d'intérêt c'est public non plus. Là,
Non, c'est ça, mais là, ce que je comprends de l'article, puis je vous le lirai pas, là, vous allez le voir passer 50 fois là, dans les prochaines heures, mais donc, sa fille de 23 ans, elle a appris sur les réseaux sociaux que son père serait mort au Brésil. Un internaute nommé Steve Pinette en a fait l'annonce dans une vidéo publiée le 17 février dernier dans un groupe Facebook nommé « Expat québécois au Brésil ». Yann est décédé, ça fait deux jours que j'ai appris, blablabla. Puis là, elle avait, par l'entremise de d'autres pages, elle avait signifié aux pages comme « Ménage du dimanche du Miné du Québec », par une courroie de transmission commune, qu'elle aurait aimé ça, que le message qu'elle avait à l'effet de « je le sais pas, puis lâchez-moi patience », se circule. C'est tout. Il n'y a pas eu de quelques trucs conjoints que ce soit. Moi, je l'avais fait en parole dans le show que j'avais vendredi dernier. J'avais fait un tweet là-dessus qui disait « Peu importe le côté de la clôture du monde, soyez pro-vaccin, anti-vaccin, whatever. » Est-ce que, tu sais, on est rendu à vouloir des clics à ce point-là? Est-ce que...
Ben oui.
Tu sais, ben, c'est sûr, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que j'étais un peu en Moses vendredi quand tout ça a sorti, là. Puis, ben là, regarde, c'est de son propre chef. Fait que, autrement dit, là, c'est que c'est devenu à tel point que là, il faut qu'elle aille dans les médias pour dire au monde, pouvez-vous arrêter de compter de la bullshit? Même moi, je le sais pas, là. Tu sais, c'est grave, là. Tu sais, fait que
Ben, comme tu dis, l'important, c'est les clics, puis avoir quelque chose à dire, puis que les gens te suivent, puis que ce soit vrai, c'est plus tellement important. Que ça empiète sur la vie privée des gens, c'est plus tellement important. Que ça cause des dommages, c'est plus tellement important. Écoute, on a vu des exemples extrêmes dans les 10 dernières années de gens qui menaçaient de se suicider, puis que le monde dit « Ah ouais, fais-les! » Puis ils voulaient le faire devant la caméra, live, en direct. Il y en a qui l'ont fait. Puis les internautes encourageaient cette personne-là à passer à l'acte parce qu'ils voulaient voir ça. Ils voulaient voir un suicide live sur Internet, à leur écran. Tu sais, c'est on dirait qu'un humain, dès qu'il passe dans un écran, il est souvent déshumanisé. On se fout de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, des conséquences que ça peut avoir. Tu sais, c'est pas un phénomène nouveau. Ça a commencé en même temps qu'Internet. Là, on se rappelle même du Star Wars Kid. Tu sais, il y a pas de compassion. La compassion est pas une valeur qui prévaut sur les réseaux sociaux.
Moi, Frank, je voulais pas nécessairement poser comme tel un jugement là-dessus, là. Autant que, oui, je l'ai fait pareil, là, mais autant que juste relayer le message de Kelly pour que, tu sais, cette information-là se dissémine. Là, je vois des affaires dans le chat, là, le monde a des théories. Moi, j'en ai pas de théories. On le sait pas, puis c'est pas de nos crises d'affaires. Fin.
Laisser des théories non fondées, non prouvées aux conspis, c'est leur spécialité. Il faut pas... Il faut pas faire leur travail, vous allez avoir un grief de Dan Pilon.
Non, mais ce que, regarde, on le sait pas, ça nous regarde pas. Ce que je sais, par exemple, ouais. Ça je le sais, c'est que la fille de Yann est pas en train de faire des levées de fonds pour au nom de son père. Ça je le sais parce que c'est elle qui le dit, c'est ce que je sais.
Elle n'est pas en train d'instrumentaliser quoi que ce soit ou essayer de s'enrichir ou aller chercher des clics. Elle essaie juste de dire au monde, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous calmer sur ce qui se passe avec notre vie privée. On le sait pas. En plus, l'information n'est pas confirmée. Fait que, tu sais, c'est... Mais écoute, c'est pas aujourd'hui qu'on va réformer Internet puis qu'on va éduquer certaines personnes sur la bienséance et la façon de se comporter qui serait plus morale. La morale, c'est pas important sur Internet. Sauf si tu t'en sers pour attaquer quelqu'un. Ça marche. Écoute, avant d'aller à la pause, on va faire juste une petite nouvelle. J'en ai une plus grosse après. Mais c'est juste pour s'amuser. C'est une zone insolite. Écoute, au Japon, on a découvert une espèce de grosse boule de métal sur la plage. Un objet qui est mystérieux. Personne ne sait ce que c'est. Fait que là, j'ai juste hâte de voir. On parlait de théories, là, tu sais, qui étaient plutôt nocives. Là, je pense qu'on va peut-être avoir des théories qui sont plutôt inoffensives, mais très comiques, là, de la provenance de cet objet-là. En même temps qu'on annonce aussi qu'on a refermé le trou le plus profond qu'on avait jamais fait sur la Terre. Ça arrive à peu près en même temps qu'on trouve cet objet-là, qui est une sphère d'un diamètre de 1,5 mètre, qui a été découverte par un citoyen sur une plage japonaise. Puis là, ils ont fait un périmètre de sécurité autour parce que ben il y avait quand même un risque que ce soit genre une vieille mine qui aurait pu servir à la Deuxième Guerre mondiale qui se serait détachée. Tu sais, c'est pour ceux qui savent pas de quoi je parle, il existe des grosses mines, tu sais, qui sont aimantées, qui sont retenues avec un poids dans le fond de la mer, et si un bateau avec une masse métallique suffisante pour faire agir les aimants, ben la mine va se coller sur ce bâtiment-là, il fait exploser. C'était des grosses sphères. Mais là, c'est une sphère qui est lisse, ce n'est pas une mine. Ils ont fait des tests dessus, là, avec je sais pas trop quel instrument. Avec des rayons X, tu sais, c'est ça. Ils ont pris des rayons X pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et. C'est creux, il y a rien dedans, c'est juste une sphère. Moi, j'ai l'impression que c'est un morceau de manège ou un morceau de bateau, tu sais, un morceau qui devait servir de contrepoids à une grue ou n'importe quoi. Tu sais, c'est sûrement quelque chose de très banal, mais j'ai hâte de voir ce qui va sortir comme théorie là-dessus. Je suis convaincu que ça va être une sphère de savoir des Anunnaki. Patente de même. Là, il y a une grosse mode de civilisation ancestrale disparue, inspirée par les extraterrestres. Les conspires sont beaucoup là-dedans ces temps-ci.
Tu devrais voir les théories des Yanks dans le chat ici, là. Une couille de Transformer.
Ça m'intéresse. Attends un peu. Ça, par exemple, les théories de nos auditeurs, je veux les savoir parce que je sais qu'elles vont être drôles. T'as quoi? Un œuf de morgelon. Il doit en avoir des morgelons là-dedans. C'est microscopique. On parle quand même de 1,5 mètre de diamètre. C'est pas une mine, oui, c'est ça, c'est pas une mine. Une géode, non, je pense pas que ce soit ça. C'est en métal. Un œuf de Transformer, à date, je trouve que c'est ce qui est le plus crédible. Un œuf de Mechagodzilla, ça se peut. Bouche chinoise, OK. Sans commentaire. Mais bonne pareil.
Ouais.
Mais non, non, quand même, on a des...
N'en fallait pas plus.
c'est sûr. Ah, c'est un Orgolife chinois.
Oh, un Orgolife or go home.
Ouais, ou une boule disco avec Disco Dan dedans. Non, oui, c'est peut-être Disco Dan parce qu'on a dit que la sphère était creuse. Parce que Disco Dan est un personnage creux. Ça pourrait être lui qui est à l'intérieur de ça, peut-être en gestation pour ressortir en humain augmenté ou en Anunnaki ou je sais pas quoi. Une sculpture d'un étudiant en art. Ah, ça, c'est pas impossible non plus. C'est peut-être une partie d'œuvre d'art. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie de l'équipement d'un bateau de pêche. C'est en métal, mais ça veut pas dire que ça flotte pas. C'est peut-être une sorte de bouée ou de Ça a certainement une fonction, cette affaire-là. Mais je trouve ça très drôle. Puis en fait, je trouve... J'appréhende de trouver ça drôle, puis c'est ça qui me fait rire. Parce que j'ai hâte de voir les théories de gens qui sont... là, ils ont fait des blagues, là. On fait des blagues dans le chat, mais il y a des gens qui vont être tout à fait sérieux et qui vont avancer des théories encore plus loufoques que tout ce qu'on est capable d'inventer entre nous autres. Ça, j'ai hâte de voir ça. Dans le fond, c'est que j'appréhende des situations comiques avec cette sphère-là.
Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene, ils n'ont pas encore vu ça. Là. Ils vont dire que c'est un upgrade des ballons d'avant. Avant, ils étaient en tissu, whatever.
Là,
ils
sont sous-marines.
Là, ils sont en métal.
Les sous-marins espions.
C'est les ballons 2.0. C'est incroyable.
Puis, il y a deux poignées dessus, nous dit-on dans le chat. Écoute, faut que ça se transporte bien, une orbe de mousse de nombril, vraiment. Là, je pense que tu l'as inspiré avec Marjorie Taylor Greene. Jewish Space Orb, c'est une orbe spatiale juive. Ben oui, c'est sûrement tombé, c'est ça. Pour moi, c'est un réservoir vide de carburant, de plasma, de laser juif spatial qui allume des feux de forêt en Californie, selon Marjorie. Taylor Greene, je vais juste vous rappeler ça, que cette femme-là, politique, qui occupe un poste important aux États-Unis, ce pays hautement intellectuel et avancé, qui croit fermement que les feux en Californie, les feux de forêt, avaient été causés par des lasers spatiaux juifs. Fait que... C'est vrai qu'elle risque d'avoir une maudite bonne théorie. J'ai hâte qu'elle explique les poignées, par exemple. Mais non, c'est intéressant. Ça va être drôle de suivre les théories. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont mélanger ça avec le trou profond qui a été rempli, là, parce que ça devait donner accès au monde des intraterrestres. Puis ça, c'est un ballon de basketball intraterrestre en métal. En tout cas, ça va être très comique, puis on va suivre ça. On va faire une petite pause, puis on revient avec une nouvelle un peu plus sérieuse.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
La compagnie BRP Bombardier, qui est un fleuron de l'industrie québécoise, le legs de l'inventeur officiel de la motoneige, quoi que tu sais cette théorie-là est contestée, hein, parce que ça a l'air qu'il y a d'autres personnes qui ont inventé la motoneige en même temps ou avant Joseph Armand Bombardier. D'ailleurs, j'ai écrit un blog là-dessus sur le blog du Québec, si ça vous tente d'aller lire ça. Oh, breaking news! Bienvenue tout le monde.
On est sain, là. Ouais. Ça, c'est.
Okay, on n'a pas trouvé un cube sur une plage japonaise pour sortir la sphère. Ce fleuron-là québécois, BRP, apparemment, une drôle façon de rémunérer ses employés qui viennent de l'étranger, mexicains en l'occurrence, ils les payent 4 fois moins cher. C'est ça la façon particulière de rémunérer. Puis d'ailleurs, ce que ça donne de les payer 4 fois moins cher, ça fait qu'ils sont en deçà du salaire minimum. Et puis, eux autres, ils disent « Ouais, mais c'est parce qu'ils sont logés, nourris. Fait que c'est pour ça qu'on prend 60% de leur paye par souci d'équité envers leurs collègues québécois. Mais est-ce vraiment équitable? » On va explorer ça grâce à un article de Radio-Canada, ici Estrie, qui a mis ça à jour et qui détaille tout ce qu'on sait à propos de ça, parce qu'il y a des employés mexicains qui leur ont donné leur relevé de paye, leur slip de paye, comme on dit dans la langue de Molière.
Là, avant que tu partes, Frank, ça vaut-il la peine? Tu sais, là, quand on parle de BRP, là, évidemment, là, on parle de la division des produits récréatifs, là. Fait que là-dedans, tu sais, ne pas confondre avec Bombardier, là.
Oh, ouais, c'est pas les wagons de train, là.
C'est Valco, puis c'est ça, là.
Non, Caroline, j'ai resté là, j'ai travaillé là, puis je me rappelle plus. De la Pocatière. Non, on parle de Valco, les quatre roues des skidoo. Pour une semaine de 40 heures, le salaire de base d'un travailleur mexicain, c'est 225$. Un Québécois, lui, fait combien? 920. C'est comme un petit écart, hein? Ça, on dirait que ça justifie pas les sandwichs au bélonné fournis par la shop, hein? Le salaire minimum au Québec, ça correspond à 570 par semaine. Ils sont à 225.
Puis, et sous prétexte qu'ils sont logés, nourris, évidemment.
En plein ça.
Ouais, puis là, attends un peu, là. Daniel de Chambly a une question, puis moi, j'avais la même, là. On parle pas de sous-contractants, on parle pas de firmes qui embauchent des Mexicains, puis qui les... Non, non, c'est sûr, il y a un T4 de BRP, là.
Oui, c'est ça. Ils sont employés par BRP. Puis là, il y a des travailleurs qui ont fourni des talons de paye. Ça donne un salaire horaire à peu près de 5,50 à 7,25. Quand j'ai commencé à travailler en 95 à l'âge de 15 ans, je gagnais 6,90. C'était le salaire minimum pour pomper
4,35.
Du gaz.
4,35 ici, ma première job, c'était le salaire minimum. C'était acheter un Bessic avec ça, un PB10 Peugeot, voilà.
Colin, hein? C'est fou comment ça a changé. L'argent n'a plus la même valeur. Quand on riait quand nos parents nous racontaient, moi, dans le temps, je m'achetais un sac de chips, c'était 5 cents, des miettes de chips, puis là, je m'achetais des négresses au dépanneur, une scène, puis c'était... Ils appelaient ça de même. Des bonbons, ça s'appelait de même. Okay, on rentrera pas dans ce sujet-là, là, mais Colin, au moins, on a évolué là-dessus. Mais l'argent n'a pas la même valeur, mais c'est ça. Là, on parle du salaire minimum de la fin des années 90. C'est ce que les Mexicains qui travaillent pour BRP gagnent. T'sais, le salaire minimum, c'est 14,25. La mentalité en arrière de tout ça, c'est « Ouais, mais pour eux autres, c'est de l'argent! » Tu sais, condescendant puis discriminatoire. Ouais, tu sais, ça serait de la merde pour un Québécois, mais pour eux autres, c'est beaucoup d'argent, fait qu'on peut les exploiter sans problème. Écoute, une ex-employée de BRP qui, elle, offre cette réflexion-là. Elle dit, vous mettez des gens à pied parce que ça coûte trop cher, en évoquant une récente vague de licenciements de travailleurs chez BRP. Vous mettez des gens à pied parce que ça coûte trop cher, qu'il y a trop d'employés, puis on fait quand même rentrer des travailleurs étrangers, puis on les paye ce salaire-là. C'est un petit peu étrange. Ce que dit la Commission des droits de la personne, c'est que par la bouche de Germain Royer, il dit un employeur qui offre un traitement salarial différencié en fonction de l'origine ethnique s'expose à des plaintes pour discrimination. J'espère. Ils ont les mêmes droits que les autres travailleurs. On peut pas les payer différemment à cause de leur statut ou à cause de leur origine ethnique nationale ou de la langue. D'ailleurs, ils sont payés en peso, hein, en passant, là, soit dit en passant. Tous les travailleurs mexicains qui ont été interviewés par Radio-Canada ont affirmé avoir touché quand même... Ben, en fait, c'est pour eux autres, ça correspond à une augmentation salarial, parce que comparé à ce qu'ils gagneraient dans leur pays. Mais ils sont pas dans leur pays.
Il est là le problème. C'est ça, là.
Mais c'est
exactement
pas,
c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand on se compare,
on se console.
C'est ça, tu sais. Fait que là, c'est... Yeah, c'est un cas classique de corporatisme qui a trouvé une voie de contournement en fournissant un emploi logé nourri qui lui permet de, tu sais, parce qu'on s'entend-tu que, ben là, je sais pas, là, je vais te laisser continuer. Est-ce qu'il parle des conditions dans lesquelles ils vivent, tu sais? C'est dans des dortoirs ou ben non, ils leur louent des appartements, tu sais?
Pas vraiment, mais peu importe les conditions où ils vivent.
Non,
le montant est démesuré. Le montant prélevé est démesuré, là.
Je questionne pas ça. C'est une question.
Non, je veux juste te dire que moi,
si c'est des beaux apparts, ça va être correct. C'est pas ça que je dis, là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le sais pas ça, mais que peu importe ce qui leur offrirait comme condition, ce qu'on apprend, c'est que le prélèvement est beaucoup trop élevé selon la loi, puis selon le bon sens aussi.
Ouais, on
Radio-Canada a consulté son armée d'avocats et ils sont catégoriques. On peut pas offrir le salaire en vigueur au Mexique pour du travail fait au Québec.
Ben non, voilà.
Oh, il me semble que ça tombe sous le sens. Il n'y a aucun passe-droit, aucune personne ne peut travailler légalement en deçà des normes fixées par le gouvernement du Québec. Fait que si tu payes quelqu'un en bas du salaire minimum, quand même que ça correspond à deux fois le salaire qu'il avait chez lui, mais il n'est pas chez lui. Il travaille ici, c'est les lois d'ici, et tu vas le traiter comme un employé comme les autres. Le fait d'avoir des mouvements inter-entreprises ne donne pas une licence pour embaucher du cheap labor. Parce que, dans le fond, ils ont transféré des employés de leurs usines mexicaines.
Ben, c'est de ça, je pense.
Avec le même salaire, ben oui. Fait que, pis là...
Parce que regarde, l'inverse s'est déjà passé. Moi, je me rappelle très bien d'une époque, c'est peut-être encore le cas, où Volkswagen avait des usines au Mexique. Même raison, mais ils le faisaient chez eux.
Voilà, c'est ça. Ils ont... Radio-Canada a communiqué avec BRP pour qu'ils réagissent à ça. Et ils ont nié en bloc les allégations. Ils ont dit, c'est catégoriquement faux ce que vous dites. Ça, c'est une représentante de l'entreprise qui a dit ça au téléphone. C'est totalement faux, c'est catégoriquement faux. Mais après ça, Radio-Canada, ouais, mais on a des slips de paye ici. Puis on a des informations ici, des preuves là. Ah, ben, finalement, c'est peut-être pas si faux que ça. Écoutez, on va vous rappeler. Fait que...
Ça, ouais, ça, c'est, vous nous mettez au fait de, tu vois, oui, mais ça, c'est dans le fond, là, c'est dans le fond ce que ça donne. Encore une fois, ça, je suis dans le 17e lettre, mais ça donne l'impression que, regarde, on va le faire. On a peut-être une voie de contournement ici, le plus longtemps qu'on pourra, tu sais, fournir un appart ou un gîte ou peu importe le logement, loger nourri. On paye des salaires de cheap labor. Puis là, ben, à un moment donné, ben, JE ou la facture vont arriver. Puis là, on fera, ben, ah, ben, on va arrêter ça. Écoute,
non, c'était, oui,
on va ajuster le salaire, puis on lui fournira plus d'appartement. Puis là, vous allez voir ce que ça va donner. Regarde, encore une fois, du corporatisme crasse. Et c'est dommage. Puis parce que je trouve ça important, le commentaire que j'ai lu, tu sais, il y a quelqu'un, Kick6606, qui est avec nous. J'ai un VTT BRP, c'est choquant, en plus de dire que les produits BRP sont les plus chers et de loin.
Mm-hmm.
En plus. Puis tu sais, pourquoi c'est plus cher? Ah, mais c'est pas si bon.
C'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la main-d'œuvre qui coûte cher, en tout cas.
Ben là, ils peuvent plus dire ça.
Et, OK, gâche. Des fois, là, il y a des coïncidences dans la vie qui sont juste tordantes. T'sais, on pourrait pas le demander, puis ça arrive. Le directeur des ressources humaines de l'usine à Valcourt, il s'appelle Carl Beauparlant.
Je pensais que tu allais dire Gonzalez.
Non, mais beau parlant. D'ailleurs, Carl Beauparlant dit, on est profondément convaincu qu'on a respecté les lois applicables. Ça, c'est ce qu'il dit.
Ben non, c'est ça. On aurait pu tout... Mettons, là, Frank, tu aurais pu juste ouvrir... Puis là, je veux pas dire que c'est moins pertinent pour ça, là, mais tu aurais pu juste ouvrir avec... Il y a un tu sais, puis on aurait pu finir. Tout le monde dans le chat, moi, toi, on aurait pu finir l'histoire. Mais non, écoute, tout ça s'est passé dans les règles de l'art et en observant toutes les lois du Code du travail. Et petit. Non, monsieur Bonparlant, non. Ah! Ah! Oups. C'est comme Yvan Pion, les arbres à sa sauce.
Ah! Ben, tu sais, c'est. Le gars est directeur des ressources humaines. Devrait être au courant un petit peu. Monsieur Beauparleur explique que si le salaire touché par les Mexicains est différent, c'est en raison de leur prise en charge complète. Tu sais, c'est comme l'armée, là. On te prend au complet, là, pis on gère ta vie.
La scientologie, BRP.
Oui, ça coûte aussi cher.
Si je te donne un salaire de crève faim, tu vas vivre empilé sur tous les autres. On va s'occuper de tes enfants. Tu sais, c'est de la scientologie de quatre roues.
Exactement, c'est de la quatre roulogie. Donc, le directeur des ressources humaines de l'usine de quatre roulogie de Valcourt dit que la partie retranchée du salaire des employés mexicains, c'est 60%. Il dit que ça sert à couvrir les frais d'hébergement, de transport, de repas, de divertissement, d'habillement et d'assurance. Hey, j'espère que vous leur payez un char, là. T'sais, à ce prix-là, là, 60% de leur salaire. Ben non,
ben on va être amené un autobus. Un 4 roues,
au moins. Mais non, je suis sûr qu'on les sac dans un autobus puis ils s'en vont ensemble au Normandin. J'ai pas l'impression. Puis tu sais, les loisirs, là, on s'occupe de tes loisirs. Hey, qu'est-ce que c'est ça, là, Colis? Ils sont sûrement capables de donner-leur leur argent. Ils vont faire ce qu'ils veulent de leurs loisirs. Gang d'exploiteurs. Ouais. Donc...
C'est vraiment cheap.
Puis là, Beauparleur continue à dire, à se défendre en disant que la raison pourquoi on prend cet argent-là sur leur paye, Ben, c'est par souci d'équité, hein. C'est par devoir moral envers les employés canadiens qui doivent payer leur logement qu'ils choisissent d'ailleurs, et leur transport qu'ils choisissent, et leur loisir qu'ils choisissent. Mais tu sais, ça correspond à ça, là, tu sais. Sauf que, tu sais, c'est 550$ par semaine pour la prise en charge. C'est ça que ça coûte. Tu sais, voyons donc. Moi, je suis libre comme l'air. J'ai un char. J'ai un appartement. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre dans la vie, là. Puis ça me coûte pas 550$ par semaine, là. J'espère qu'ils ont un beau char puis un bel appart, à ce prix-là, là. Parce que, tu sais, c'est 2000$ par mois, là, qui est prélevé de leur salaire. En fait, pas prélevé. Ils le gardent tout simplement, tu sais.
Pas juste ça. Tu sais, à partir du moment, moi, je suis désolé, là, mais tu vas dire probablement la même chose, là, mais à partir du moment où est-ce que tu détermines du coût de la vie. Tu sais, regarde, je te donne un exemple. Il arrive un monsieur qui vient du Mexique, il a une femme puis il a un enfant, mettons. OK? Puis là, il est dans ces conditions-là. Ben, eux autres, ils décrètent qu'ils gardent 550$ par semaine pour ses besoins de subsistance, là, tu sais, logé, nourri, là. OK? Mais lui, peut-être qu'il est capable de faire ça pour 150 par semaine parce qu'il y a un régime particulier, whatever, ou qui est frugal, là, peu importe, où il faut bien à manger avec pas grand.
Ou il y a un char modeste ou pas de char, prendre le transport en commun, ouais, tu sais.
Fait que moi, je suis désolé, mais ça, c'est ça, là. Et où la fédé la tapouette? Comment ça qu'il s'occupe pas de ça?
Ben oui! Hey, mais tu sais, c'est justement ce 550$-là qui ne leur est pas donné. C'était ça mon point aussi, là. T'sais, quand je disais que moi, ça me coûte pas ça, là. Ça pourrait me coûter ça si je voulais avoir un plus bel appartement, un plus gros char, manger dans les restaurants, tu sais, me payer un petit peu de luxe. Mais quelqu'un qui décide, OK, moi, je me paierai pas de luxe, je vais empiler de l'argent pour un jour me payer une maison, offrir une éducation universitaire à mes enfants. Non. C'est nous autres qui décident que ton argent va correspondre à une vie de luxe. Puis là, on sait toujours pas, tu sais, je pense pas qu'il y en ait une vie de luxe, là. Je pense pas qu'ils vivent dans des garçonnières, tu sais, dans ou des condos de luxe, là. Puis je suis pas sûr qu'ils mangent du homard deux fois par semaine, là, mais... Selon la Commission des normes de l'équité de la santé, les normes du travail, là, c'est rendu CNESSS, il y a ça les acronymes, aucun employeur ne peut prélever davantage qu'environ 60$ par semaine pour couvrir ces frais-là de prise en charge. Fait que là, la loi, là, c'est l'employeur peut prendre en charge pas le logement, les repas, tout ça, mais il peut pas prélever plus de 60$ par semaine pour ça. Fait que BRP, si on compte rapidement, ils prennent 490 de trop. 490. En fait, ils le prennent pas, ils le gardent dans leur poche. Ils les payent juste pas. Fait que ce 460$, c'est censé suffire pour couvrir ces frais-là. Il y a 490$ qui servent à quoi, à part enrichir BRP, économiser sur les salaires pour construire des machines qui nous sont vendues plus chères que la compétition. Colin, c'est bien dur, hein? Moi, je suis beau parleur, là. On dirait que j'embarque pas dans ces affaires, là. Mais beau parleur poursuit en disant que... je l'ai ici, plus granulaire, là. L'article 6 du règlement sur les normes du travail prévoit qu'un employeur ne peut pas prélever plus de 2,37 par repas jusqu'à concurrence de 30,91 par semaine. Parce que, tu sais, il mange à l'usine, là. Il mange à la cafétéria de l'usine, là. Ils font pas venir du homard pis du filet mignon, là. Ils mangent des hamburger steak avec des patates pilées en poudre, là. Tu sais, des affaires de même, des fèves en canne pis des chanouiches, là. Tu sais, pis quand je dis chanouiche, je parle pas de sandwich. Je parle des chanouiches, là. Tu sais, ça doit pas être... Je pense pas que ça vaille le prix qu'ils chargent, là. En tout cas, qu'ils chargent.
Ouais, mais même à ça, Frank, quand même, ça serait pas de la mauvaise bouffe.
C'est pas eux autres de décider.
Ça n'a pas d'allure, c'est ça. C'est pas à propos des petits pois, là, c'est à propos du steak. Si eux autres ils décident qu'ils veulent pas manger ça, ils devraient avoir le droit. Là, ça n'a pas d'allure. Ça a l'air sine qua non. Ça n'a pas l'air quelque chose que tu peux négocier dans les termes de ton emploi avec eux autres. C'est ça, take it or leave it, puis bye-bye. Là, ça n'a aucun espèce de style fucking bon sens. Pis c'est encore un cas classique d'un dude qui pogne des ressources humaines ou des communications. T'sais, regarde, moi, là, à toutes les fois, OK? À toutes les fois qu'il y a des situations comme ça, OK? Puis là, ils sortent la personne des ressources humaines ou des. Dans un cas comme celui-là, ou des communications, là. Mm-hmm. OK? Moi, je suis désolé, là, mais la vraie réponse à donner en toutes circonstances, c'est. On commentera pas tout de suite, on va aller vérifier vos allégations puis tout le kit. Là, il est là, il sort le chest, puis là, il commence à expliquer. Mais non. Quand tu vois ça, tu sais que c'est croche.
Ouais.
Parce que quelqu'un qui est pas au courant d'une situation n'ira pas la commenter, va dire, je vais vous rappeler demain à 13h, je vais investiguer de mon côté, puis là, tu fais ça, puis tu fais, tu sais, t'as quelque chose de sain au niveau des cas. Mais moi, ça me donne l'impression, puis regarde, là, ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais, ça me donne l'impression que, comme bien du monde dans le chat ont dit, c'est un cas de, on va y aller le plus longtemps qu'on est capable, puis quand on va se faire pogner, on va dire que c'est ça. Voilà. On enverra beau parleur, puis il va te le spinner ça, il est bon là-dedans.
Puis d'ailleurs, il y a personne qui a dit qu'il était pas au courant. Il y a une personne qui a dit que c'était faux. Puis après ça, il y a le beau parleur qui est directeur des ressources humaines qui dit « C'est vrai, mais on a le droit.
Ben, » C'est ça.
T'sais, puis quand on consulte les talons de paye de ces gens-là, on voit pas les déductions. Il y a rien d'expliqué, il y a rien de détaillé. On voit juste la paye du tiers-monde là-dessus. Et beau parleur de répondre à ça, tout en faisant un triple accès, le triple boucle piqué, dit « On peut pas pour des raisons techniques. » Mettre les déductions sur le talon de paye mexicain.
Oh,
des raisons techniques. Ta gueule.
C'est à cause de l'imprimante. L'imprimante
est cassée. Non, mais c'est parce qu'on a perdu le fichier Excel, là, puis on peut plus le modifier, l'original. Puis c'est long, enfin. C'est de la merde, OK? C'est de la bouette, là. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est juste pas vrai, là. Je pense que c'est du gros bon sens, là. Mais par exemple, on a fait des représentations, les travailleurs étaient au courant de ça, puis sur le contrat d'embauche, tout est détaillé, tout est écrit sur le contrat d'embauche, que tout est, c'est ça, que le coût total, puis le séjour, puis la bouffe, c'est tout écrit, sauf que... Quand tu regardes le formulaire d'embauche, là, ben, c'est pas écrit. Je t'annonce-tu quelque chose de surprenant, là? C'est pas écrit. Ça non plus, c'est pas vrai. À moins qu'il existe un autre formulaire, tu sais, qu'on n'a pas eu accès, que Radio-Canada n'a pas réussi à trouver, que les employés mexicains qui se sont plaints n'ont pas trouvé non plus, ou l'ont perdu dans la laveuse, ou ben qui était sur le bord de le CV quand le chat est tombé sur le laptop. On n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est censé être écrit, mais on dit un des travailleurs mexicains nous a pourtant envoyé un contrat après qu'il ait dit que tout était détaillé sur le contrat de travail, là, toutes ces déductions là, et que les Mexicains arrivaient ici en toute connaissance de cause. Il y a des travailleurs mexicains qui leur a envoyé à Radio-Canada Estrie un exemplaire du contrat d'assignation temporaire qui ne présente aucune déduction. S'il n'y a pas une déduction décrite là, ils font juste. Tu vois juste le salaire de marde du tiers-monde. C'est tout ce que tu vois. Payé en pesos, en plus.
J'ai quelques infos techniques pour toi, Frank, qui va te faire dresser les cheveux sur la tête. Les chiffres que je te donne là datent de 2022. En fait, là, les marques qu'ils possèdent, c'est Ski-Doo, Spider, Sea-Doo, Evinrude, Rotax et Manitou, qui est un gros modèle de VTT.
Rotax, c'est le moteur, c'est, hein?
Oui, c'est on parle ici de 10 500 employés. On parle d'actionnaires qui sont la famille Bombardier-Baudouin, évidemment, Laurent Baudouin qui est ici, qui est chairman of the board ou CEO, non chairman. 4,2 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Un revenu opérationnel de 690 millions, puis un net income avant amortisation, baladi balada, 358 millions. Ça a des bureaux, ça, au Canada, aux States, au Mexique, en Finlande et en Autriche. Et ça a été fondé en 2003, donc c'est une entreprise qui a 20 ans, évidemment, mais ils desservent la planète Terre.
Et ça voilà. ne les empêche pas, tous ces profits faramineux, de fourrer 25 employés mexicains à leur usine. Mais au moins, écoute, on sait que le CNESST, les normes du travail, ont ouvert une enquête à ce sujet-là, puis BRP disent qu'ils collaborent. Mais écoute, d'après moi, ils n'ont pas le choix. Fait que j'imagine, ben j'ai hâte de voir comment Beauparleur va se sortir de toutes ces allégations-là, mais Colin, c'est difficile de d'acheter ces justifications-là, hein? Surtout quand on sait que c'est déjà prévu par la loi qu'un employeur peut pas prendre plus que 60 par semaine, puis eux autres sont à 550. Colin, ça sent mauvais. Ça sent mauvais à Valco, puis si je me rachète un VTT un jour, ça sera pas un BRP.
Fait qu'on a parlé de gens sous-payés, on parlait de quelqu'un qui est présentement pas payé pantoute, et je parle bien sûr de Patrick Provost, qui, écoute, il y avait une nouvelle plainte qui avait été formulée contre lui, et elle a été rejetée par l'université, par la faculté. En fait, ce qu'il avait fait, c'est que ça concernait plutôt la publication d'un article scientifique qui laissait entendre qu'une période de 6 semaines ne serait pas suffisante pour identifier des effets secondaires liés à la vaccination. On se rappellera que la première suspension dont il a fait l'objet, c'était une suspension, il me semble qu'il durait d'une durée de 4 mois. En fait, là, dans ce cas-ci, c'était qu'il était contre carrément la vaccination des enfants. Juste pour te mettre ça en perspective, là, puis là, je comprends, là, calmons-nous, là, ils ont pas les mêmes compétences, les deux, malgré que Patrick Provost, son champ de compétences n'est pas nécessairement celui de la vaccination, mais sa prétention, c'est exactement la même que François Maléga. Pense-y, là. Pense à ça, là. C'est la même affaire. On devrait pas vacciner les enfants. À Maléga, le dossier pour lequel il a été reconnu et qu'il s'est fait acquitter, c'était pour être allé manifester devant Sainte-Justine parce qu'il voulait pas qu'on vaccine les enfants. Alors, c'est ça. L'autre chose qui est importante,
c'est qu'il n'y a pas un titre qui lui attire l'attention des médias. Hein? Faut qu'il aille crier dans un mégaphone devant des chambres de gens qui essaient de guérir.
Là, les réactions qu'ils ont été capables d'obtenir de Patrick Provost, particulièrement à cette plainte-là, précisément, c'était qu'il il se réjouissait du fait qu'il considère être un recul de la part de la direction à son égard. L'appui de plus de 280 collègues qui ont dénoncé par écrit un traitement jugé abusif à son endroit pourrait avoir pesé dans la balance. Y a-tu les concierges là-dedans? Y a-tu le monde à la cuisine? Je ne sais pas.
Le pilote est peut-être pilé. Est-ce qu'il a eu droit de parole là-dessus?
Je sais pas. Provost est présentement suspendu sans salaire pour une période de 4 mois en raison des propos controversés tenus où ça? Sur Radio Conspix, dans lesquels il a réitéré son opposition à la vaccination des enfants contre la COVID, remettant en question son efficacité et ses bénéfices, ce qui va à l'encontre du consensus scientifique sur la question. Et là, le bout... Le big whammy de cette affaire-là, Frank, c'est très simple. C'est dans la lettre l'informant de sa deuxième suspension, parce qu'on se souviendra que la première est arrivée l'an dernier, alors qu'il avait tenu des propos à coucher dehors sur sa page Facebook. Dans la lettre l'informant de sa deuxième suspension, l'Université Laval l'a informé que toute récidive entraînera un congédiement. Sauf que là, il n'y en a pas de problème, là. Il fait des conférences avec du monde du parti de droite allemand. Il est chroniqueur, écoute, à Radio Conspix. Ça roule, là. Il se fait inviter partout, là. Hollywood Conspi PQ le reçoit sur une base super régulière.
Oui, je l'ai vu récemment, puis c'était assez tordant parce que c'est Walmart Justin Trudeau. C'est quoi son vrai nom, Nado? C'est...
Ouais,
vous savez très bien de qui je parle. A fait une capsule dans laquelle il décortique une entrevue avec Patrick Provost.
Ouais, ouais.
C'est complètement. Pour vrai, je me demande si sa santé mentale est pas en jeu là-dedans, ou ben si il est incompétent parce que il parle. Oui, c'est exactement de ça que je parle, Mick Eleven. Il parle de... Il, dans une espèce de chronique où on dit « Ah, voici les choses au sujet desquelles les conspis avaient raison. » Puis là, il dit « Les masques ne marchent pas. Ça ne... » Mathieu Nadeau-Vallée, merci. Les masques ne marchent pas. On a fait une étude à double aveugle par rapport au port du masque. Comme ça se peut petit. Pas, ça! Une étude à double aveugle, ça veut dire que ni la personne qui conduit l'étude, ni la personne qui est sujet de l'étude est au courant dans quel groupe il est. T'as un groupe contrôle, tu sais, puis t'as un groupe qui est... Par exemple, pour faire une étude à double aveugle avec sur le port du masque, il faudrait qu'il y ait un groupe qui porte le masque et un groupe qui porte pas le masque. Mais que le groupe qui porte le masque soit pas au courant qu'il porte un masque et que le groupe qui ne porte pas de masque se rende pas compte qu'il porte pas de masque et que le scientifique qui mène l'étude fasse pas la différence entre ceux qui portent un masque et ceux qui portent pas de masque. Ça, c'est à double aveugle. Ça se peut pas, Patrick! Tu, ça se peut pas que tu comprennes pas c'est quoi une étude à double aveugle, tandis que moi, que j'ai zéro étude, que je comprends. Comment ça se fait? Puis il en parle comme si c'était une preuve que les conspis avaient raison. Regardez, ils ont fait une étude à double aveugle, puis le résultat est tel... Ils en ont pas fait parce qu'elle est impossible, l'étude que tu cites. Et c'est même pas faisable dans la réalité du monde réel. Voyons, Patrick!
Ouais, mais Frank, c'est pas grave, ça. Calme-toi.
Mais non, c'est pas grave. Toi. L'important, c'est qu'il a le narratif conspi. Les ben conspi ouais. l'aiment.
C'est pas
et
juste
il
ça.
Suscite
ben non,
des dons.
C'est pas ça. C'est pas ça. Respire. Ils s'en rendront pas compte.
Ouais, eux autres c'est ouais, c'est, eux autres sont pas eux autres sont double aveugles hein, du côté de c'est la ça. Vue puis de la raison, tu sais, c'est
ils
sont imperméables à la raison.
Ouais, oui, recommence à respirer.
Mais ils sont impressionnables bon. et c'est facile avec surtout quand t'as un titre ronflant comme le sien de faire de la désinformation scientifique et même de démontrer que tu ne comprends même pas ce qu'est une étude à double aveugle et quand même de faire valoir le résultat qui ouais. sûrement existe même pas, que ça sort sûrement du cul de quelqu'un, ça s'est ramassé sur internet, il a lu ça, il a cru ça comme un vulgaire conspi. Patrick Provost, t'es un vulgaire conspi.
Fait que là, ce qui va arriver, c'est que fort de cette plainte-là qui n'a pas été retenue, ben moi, ce que je prédis, c'est que... Puis là, repars pas, Frank, j'ai une bonne nouvelle, là. Fait que recrinque-toi pas, là. Mais moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que fort de cette bonne nouvelle-là pour lui, évidemment, puis ça va galvaniser ses ouailles, puis tout, ben regarde, il va juste en faire un autre, puis il va se faire mettre dehors. That's it, that's all. Mais une madame qui ne se fera pas mettre dehors. Écoute bien ça, Frank, super belle histoire. Qui s'est passé, faut que je te dise, c'est quand même, c'est récent. Il y a une madame qui s'appelle Diane Gordon, qui elle a 65 ans. Puis, pour aller travailler, faut qu'elle marche, écoute bien ça, 2,7 milles, c'est doit être à peu près 4,5 kilomètres quand même, d'une bonne trotte. Et elle travaille dans un deli au Michigan. Et, pour se rendre à son travail, elle croise plusieurs autres commerces. Puis là, à un moment donné, ben, il faut qu'elle arrête, faut qu'elle se... on explique que c'est parce que son Jeep il est brisé qu'elle doit marcher pour aller travailler. Fait que là, ben, une journée qu'elle s'en va travailler au deli, elle arrête dans une station service pour se prendre un petit snack pour son shift. Et elle arrive sur un genre de banc, il y a un sac, il y a plein de cash dedans, puis il y a des cartes de souhait. Elle décide de faire ce qu'elle a appris, ce que ses parents lui ont montré. Elle pogne le sac, elle s'en va au poste de police. Arrive au poste de police et il s'avère que le sac en tant que tel, on ne sait pas dans quelles circonstances là, ça a été rapporté, mais évidemment, il y avait des propriétaires qui cherchaient leur sac plein d'argent avec carte de souhait parce que c'était un cadeau de mariage.
Oh!
Et là, il n'y a pas de gimmick, là, il n'y a pas quoi que ce soit, là. Fait que là, les propriétaires du sac l'ont récupéré, puis ainsi de suite. Et là, ben, le policier qui a traité de cette affaire-là, il a trouvé ça tellement sympathique, c'est parce que, regarde, on s'entend-tu, Frank, là, que 98% du monde qui trouve ça, ils vont pas à police, ils redonnent 15 000.
Les cartes vont dans le tas des goûts, puis l'argent va dans les poches.
Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que le département de police a mis en place un GoFundMe pour que Diane Gordon puisse acheter une auto.
Oh.
Parce que son auto était pétée, ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça bien sympathique. Oui. Puis là, ben écoute, le monde a tellement trouvé l'histoire de Diane. Puis tu sais, elle a des petits-enfants, puis toute l'équipe. Tout Tout le monde a tellement trouvé ça sympathique que Diane, c'est, puis là, on s'entend, 65 ans, faut aller travailler dans un délit à pied, c'est pas parce que tu roules sur l'or, n'est-ce
non,
pas?
Non, non.
T'as pas de quatre roues de BRP, toi, là.
Non,
là,
non,
t'sais?
Non.
Fait que là, ben, ce que ça a donné, ce à quoi ça a donné lieu, ben, écoute, ce qu'ils ont levé pour Diane, et ça s'est fait dans les règles de l'art, là, je vous rassure tout de suite, partez pas les jokes de GoFundMe, là. Ça, c'est ben, quoi, je suis plus capable d'entendre quelqu'un dire GoFundMe.
GoFundMe, ouais.
Il essaye pas de te trouver, il essaye de te funder,
c'est ça.
C'est 83 000 $. Fait que, comme quoi, tu sais, d'être honnête et de ramener 15 000 $ quelque part aura valu à Diane, ben, le très intéressant pactole de 83 000 $. Qu'elle compte partager avec sa famille et avec lequel elle va évidemment gâter ses petits-enfants.
Un bon geste est toujours, non, ça c'est pas vrai, est souvent récompensé. En tout cas, ça arrive des fois, puis c'est réjouissant de voir ça, que l'honnêteté a encore une valeur, est encore une valeur que certaines personnes apprécient aujourd'hui. Puis il y a des GoFundMe
qui... Ah, c'est-tu que je suis pas capable. Il y a deux affaires. GoFundMe, je suis pas capable. Mm. OK. Le Super Bowl, je suis pas capable. Okay, c'est le Super Bowl. Mm-hmm. C'est un bol. C'est pas une balle.
Oui.
Okay. Puis.
Arrête de faire des signes de...
un épisode. Je suis pas capable.
Un épisode. Ah, un épisode, c'est comme un autobus ou un avion, là. Mais ouais, moi aussi, il y a des mots anglais qui sont massacrés par les Québécois qui m'énervent. Comme un teaser. La police a utilisé son teaser. C'est quoi? Ils ont mis une annonce, puis après si la pause. C'est un taser, les amis. Okay?
Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire une liste d'affaires demain.
On pourrait intégrer quelques noms d'artistes aussi, comme Marilyn Manson, et non pas Marlon Manson. l'entend moins ces temps-ci, il est moins populaire, mais hey, que j'ai donc entendu ça souvent.
Puis il y a les hommes galants aussi.
Du Marilyn Manson.
les hommes galants qui ont tous le même nom, ils s'appellent tous des Jack Lemmon.
Des Jack Lemmon, oui.
Non, mais demain, par exemple, là, les amis, n'oubliez pas, demain, c'est les tweets de tweets.
Oui.
Alors, je travaille activement sur ma liste de tweets de tweets. S'il y en a qui veulent participer à ça, parce qu'ils en ont trouvé que moi, j'ai pas vu, parce que je suis assez assidu, c'est ici. Twitter, GoMart, vous allez me trouver là, envoyez-moi ça en DM. Oui, 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 puis vous allez voir, demain, je vais avoir des beaux tweets, vous allez être fiberglassé.
Oui, hey, puis on va peut-être assortir ça d'une excellente tune de Marilyn Manson ou de Judas Priest.
Ah, voilà.
OK, c'était ça votre express pour aujourd'hui, on s'en reparle demain, à midi.
De la famille H2O Web Media.